Europe 1. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
C'est l'une des moins connues et pourtant l'une des plus sensationnelles enquêtes que la police ait jamais menée. Peut-être s'agit-il même de l'événement le plus important de toute l'histoire policière et le dossier extraordinaire le plus extraordinaire sur le plan strictement policier que nous ayons traité dans cette émission. Aussi, nous tenons tout de suite à donner une précision. Le texte de Jacques-Antoine a été écrit à partir d'une mise au point faite en 1950 par le docteur Charles Sany, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et directeur de l'identité judiciaire. Il doit donc être considéré comme rigoureusement vrai sur le fond, car bien entendu certains détails sans importance peuvent être erronés. Vous comprendrez pourquoi cette mise au point. Un homme, au visage pâle, maigre, triste et froid, les mouvements lents, la voix sans timbre, souffre de troubles digestifs, d'insupportables crises de migraine et de saignements de nez. Inaccessible et renfermé, il froisse son entourage. Il est aussi taciturne, méfiant, sarcastique, terriblement rancunier, agaçant par son pédantisme excessif, absolument insensible aux joies esthétiques de la vie. Dépourvu de tout sens musical, pendant son service militaire, il compte les notes émises par la trompette pour distinguer la sonnerie du réveil de celle de l'appel. Un de ses amis avoua plus tard qu'il avait un caractère particulièrement désagréable. À trois reprises, renvoyé des meilleures écoles françaises à cause de ses progrès insuffisants et d'une conduite inqualifiable, il a été congédié par une banque après 3 semaines de stage seulement et n'a connu aucun succès en tant que précepteur en Angleterre. Enfin, il n'a pu obtenir le poste d'auxiliaire de la préfecture que grâce aux relations de son père. Pourtant, cet homme va révolutionner les méthodes policières du monde entier. Il s'appelle Alphonse Bertillon. Les choses les plus simples ne sont pas toujours les plus anciennement connues. C'est ainsi qu'il a fallu plusieurs millénaires pour que quelques savants observent que certaines dimensions du corps humain, très variables d'un individu à l'autre, sont par contre constantes chez un même individu à partir d'un certain âge. Et il a fallu encore plusieurs siècles pour tirer parti de cette observation. Et oui, jusqu'au siècle dernier, on savait décrire un personnage en disant qu'il était grand ou petit, qu'il avait les yeux bleus ou noirs, qu'il avait une petite ou une grosse tête, de petites ou de grandes mains. Mais on ne s'était jamais avisé qu'à partir de l'âge adulte, tout cela pouvait être mesuré, noté, et qu'il en résultait un signalement quasiment définitif. Jusqu'alors, la police n'avait donc aucun moyen rationnel d'identifier une personne autrement que par son nom, et comme il était facile à cette époque de changer de nom, les malfaiteurs pouvaient s'en donner à cœur joie. C'est alors que vers 1880, Alphonse Bertillon, devenu chef du service de l'identification à la préfecture de police, prend l'habitude, chaque fois qu'un individu est arrêté, de noter son signalement sur une fiche, en adoptant, à côté du classement alphabétique, un classement anthropométrique, mesure osseuse, longueur et largeur de la tête, taille, envergure, etc. C'est, dès le début, une véritable révolution dans les méthodes policières, car Alphonse Bertillon arrive à reconnaître chaque mois parmi les gens ayant déjà subi des condamnations 30 à 40 individus qui avaient réussi à changer de nom et se croyaient à l'abri. Son système, qu'on appelle le bertillonnage, se répand dans le monde entier. Pourtant, le bertillonnage n'est pas la panacée universelle, car s'il permet à la police d'identifier un individu, encore faut-il que celui-ci soit déjà entre ses mains, pour comparer ses mensurations avec celles figurant sur ses fiches anthropométriques. C'est alors que s'ouvre le dossier de l'affaire Scheffer. Nous sommes le 17 octobre 1902. Vers 10 heures du matin, un homme bien mis, mais pâle et essoufflé, se présente au commissariat du quartier Saint-Honoré à Paris. « On a tué Joseph, dit-il, au comble de l'affolement. Le policier, sans s'émouvoir, dévisage son interlocuteur. « Qui êtes-vous ? » ?»«
Je suis Monsieur Allot, chirurgien dentiste. Mon cabinet est au 157 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. »
« Bien, je vous écoute, » dit posément le policier.
« Eh bien voilà, il y a quelques instants, je suis entré dans mon appartement et j'ai trouvé Joseph, couché sur le dos, mort. »
« Procédons méthodiquement, s'il vous plaît. Qui est Joseph ? » ?»«
Mais c'est mon domestique. »
« Joseph, ça n'est pas un nom. Oh pardon, il s'appelle Rebelle, Joseph Rebelle. »
« Comment savez-vous qu'il est mort ?»«
Ben, il ne donne plus aucun signe de vie, il ne respire plus, son cœur ne bat plus. »
« Pourquoi pensez-vous que c'est un assassinat ?»«
Je crois que plusieurs meubles ont été fracturés. »«
On vous a volé ?»«
Ben, je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais je le pense. » »«
Le jour même ?» Alerté par le commissaire de police, le juge d'instruction, M. Joliot, se rend sur les lieux du crime. Il est accompagné du docteur Socquet, médecin légiste, de M. Cochefer, chef des services de la sûreté, et de M. Bertillon, chef du service de l'identité judiciaire. Imaginez donc ces quatre messieurs très sérieux, en guêtre, par-dessus égibus, entrant dans le cabinet du dentiste qui les accompagne. Des policiers en uniforme veillent sur le palier. Dans une petite pièce dite de la caissière, où se tient normalement une employée du dentiste, le cadavre d'un homme de 40 ans environ, les moustaches en guidon de bicyclette, la bouche ouverte, est assis sur le parquet luisant de cire. Il semble regarder les quatre enquêteurs car, appuyé le dos contre une chaise, il fait face à l'embrasure de la porte. Les jambes allongées, la chemise en partie sortie du pantalon, une serviette est nouée autour de son cou. Le médecin se penche sur lui. Les joues et le nez portent plusieurs petites égratignures, probablement faites par les ongles de l'assassin. Car il n'y a aucun doute, il s'agit d'un crime. Et le médecin légiste, surpris, se penche encore un peu plus sur le cadavre. Car il ne voit pas ses dents.
« Le malheureux m'avait demandé de lui faire un dentier, » dit le chirurgien dentiste. En effet, le dentier, déplacé, se trouve au fond de la bouche.
« Il a été probablement étranglé, » dit le médecin légiste. Le procureur, qui entreprend la visite des lieux, découvre, dans la cuisine, les traces d'un repas. Mais pour une seule personne, car bien que la table ait été débarrassée, la vaisselle sale ne comporte qu'une assiette et qu'une seule tasse. Sur la table, on peut voir cependant une bouteille de rhum largement entamée et une boîte de cigares. Dans l'évier, un torchon taché de sang mêlé d'un liquide blanchâtre, peut-être de la salive. Dans ce cas, il aurait pu servir à étouffer la victime et faire cesser ses plaintes. Enfin, pendue à une patère, une blouse blanche maculée de sang. Alphonse Bertillon sort alors le matériel photographique de l'époque, le pied en bois, l'énorme boîtier à souffler, le jeu de plaques, etc., et commence à photographier le cadavre. Pendant ce temps, le procureur passe dans le cabinet proprement dit du dentiste, constate au passage qu'un secrétaire et diverses vitrines ont été l'objet d'effraction. Soudain, le procureur montre au chirurgien dentiste des clés sur une cheminée.
À qui sont ces clés ?
Ben, ce sont les clés des meubles, c'est le trousseau de Joseph.
Est-il normal qu'elles soient là ?
Non, Joseph les portait toujours sur lui. C'est donc probablement le meurtrier qui les a abandonnés sur cette cheminée. Dans ce cas, les effractions sont, du moins pour certains meubles, simulées. Par contre, passant dans le grand salon, le procureur reste en arrêt. Une vitrine à deux corps occupe le milieu d'un panneau. Le bas du meuble est plein, mais le haut est fermé par une porte vitrée à deux battants. Le procureur appelle alors Alphonse Bertillon. Et avec l'entrée de celui-ci dans le grand salon, la véritable affaire Schaeffer commence. Alphonse Bertillon a en effet un coup au cœur en voyant ce meuble. Car la vitre du battant droit est brisée. Et sur la portion de verre qui est restée en place, on remarque des empreintes de doigts très apparentes.
Qu'en pensez-vous, Monsieur Bertillon ? Demande le procureur.
Là, chers amis, je dois vous avertir que ce dialogue est purement inventé, mais vous allez comprendre bientôt que nous avons eu peu de risques de nous tromper.
Ces traces de doigts sont particulièrement nettes, n'est-ce pas, Monsieur Bertillon ? Insiste le procureur.
Oui, doit répondre Monsieur Bertillon.
Mais il doit avoir le visage grave et soucieux, car les empreintes sont son obsession, son cauchemar. Les empreintes sont son pire ennemi. La ruine de ses efforts. En effet, dès 1880, des isolés ont tenté d'identifier des individus par leurs empreintes digitales. En Argentine, en 1892, puis en 1893, à Paris et à Lyon, des spécialistes ont insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à utiliser le système des empreintes digitales au lieu et place du bertillonnage,
puisqu'il est démontré que les empreintes digitales ne se modifient jamais et qu'elles sont pourtant toutes différentes d'un individu à l'autre. Alphonse Bertillon, très autoritaire, dogmatique, reste persuadé de la supériorité de sa méthode anthropométrique face à la méthode digitale. On l'appelle dactyloscopique, trop minutieuse. Pourtant, il craint de voir sa méthode supplantée par la méthode des empreintes, et c'est à contre-cœur qu'il a décidé en 1894 d'ajouter sur ses fiches anthropométriques l'empreinte des quatre doigts de la main droite, puis en 1900 d'ajouter l'index de la main gauche. Mais une fois encore, à contre-cœur, sans aucune conviction. Et il n'y croit pas, et d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, jamais jusqu'alors, on a réussi à identifier un coupable avec ses empreintes digitales. Il faut comprendre aussi que jusqu'alors, personne n'a imaginé qu'on puisse identifier un individu absent, que ce soit avec l'anthropométrie ou avec les empreintes. Je m'explique. L'anthropométrie judiciaire, le bertillonnage, permet d'identifier l'individu à condition qu'il soit déjà entre les mains de la police, ou du moins que la police puisse effectuer ses mensurations et les comparer avec les pièces qu'elle possède déjà, mais c'est tout. Le bertillonnage ne permet évidemment pas d'identifier un individu absent. Et personne n'a d'ailleurs jamais songé à identifier un individu absent grâce à ses empreintes. Mais ce jour-là, dans le salon de ce dentiste, devant cette vitrine brisée, devant ce qu'on appelait alors des marques de doigts, nombreuses, très nettes, une évidence s'impose à Bertillon. Peut-être pourrait-il reproduire ces empreintes, les comparer avec celles qui figurent sur ses fiches, et retrouver le coupable parmi les récidivistes. Alors, on aurait réalisé l'impossible, retrouver un coupable qui se croit hors d'affaire, qui croit sans doute n'avoir laissé derrière lui aucune preuve, aucun indice. Seulement, s'il parvient à réaliser ce miracle, ce sera la fin du bertillonnage, sa chère invention. Car la preuve sera faite de la supériorité de la méthode dactyloscopique et dès lors, l'inutilité de la méthode anthropométrique. Que va donc faire Bertillon? L'irascible, l'autoritaire et dogmatique Bertillon. Dès le lendemain de la découverte du crime, une enquête serrée est entreprise. Bien entendu, on commence par interroger les voisins. Dans l'appartement du dessus, une domestique déclare « Si j'ai remarqué quelque chose d'anormal, bah et comment ? Hier après-midi, j'ai entendu en dessous des hommes qui parlaient très fort et puis des cris étouffés. »
C'était vers quelle heure ?
Ben, ça a commencé vers 6 heures du soir, puis ça a duré longtemps, puisque je les entendais encore pendant que je servais monsieur et madame.
La maîtresse de maison confirme les affirmations de la domestique, en y ajoutant une précision et une opinion.
Les bruits ont dû cesser vers 8 heures, mais ils ne m'ont qu'à moitié surpris.
Tiens, et pourquoi ?
Ce Joseph, le domestique de monsieur Allot, était une personne assez bizarre.
En quoi était-il bizarre ?
Ben, disons, il fréquentait des personnes qui avaient un genre.
Bah, pourriez-vous me préciser quel genre ?
Bien, puisque vous voulez tout savoir, il ne fréquentait que des hommes.
Quant aux voisins du dessous, ils ont été surtout frappés entre 6 heures et 8 heures du soir par des allées et venues intempestives. Ma femme et moi, dit le voisin du dessous, nous sommes même regardés un moment en nous demandant si ce bruit allait continuer. Alors j'allais donner des coups de balai au plafond lorsque tout a cessé.
Vous connaissiez ce Joseph, le domestique de M. Allot ?
Je l'ai entrevu assez rarement, nous ne fréquentons pas le même escalier. Lui utilisait l'escalier de service.
Oui, bien sûr. Rien ne vous choquait dans son attitude ?
Il était toujours correctement habillé, très poli.
N'avez-vous rien remarqué d'étrange dans son comportement ?
Dans ses fréquentations, par exemple ?
Il était peut-être un peu précieux, c'est tout ce que je puis dire, car je ne m'intéresse pas au comportement des domestiques. Vous devriez plutôt interroger le concierge.
Pour le concierge, il ne fait aucun doute que Joseph, la victime, avait des mœurs inavouables. De plus, le concierge affirme ne pas avoir quitté sa loge de toute l'après-midi, de sorte qu'il a contrôlé toutes les entrées et les sorties de l'immeuble. Comme M. Allot, le chirurgien-dentiste, ne donnait pas ce jour-là de consultation, il n'a constaté l'entrée et la sortie d'aucun étranger. Interrogés à nouveau, les voisins du dessus et du dessous sont d'accord pour affirmer n'avoir pas entendu la sonnette d'entrée de l'appartement du dentiste, à laquelle ils sont pourtant très accoutumés. Il semblerait donc que l'assassin soit une personne fréquentant habituellement l'immeuble et ayant libre accès à l'appartement du chirurgien-dentiste. Ce dernier est interrogé sur les fréquentations de son domestique.
« Eh bien oui, quoi.
Joseph avait sans doute des mœurs particulières, mais cela ne nuisait en rien à son travail. Il était sérieux, poli, méticuleux, je n'avais rien à lui reprocher, et sa façon de vivre ne me regardait pas. Mais avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans son comportement les derniers jours? Non. Avez-vous appris qu'il ait eu des fréquentations nouvelles?
Peut-être. En effet, il y a quelques jours, Joseph a reçu un homme qu'il m'a présenté sous le nom de Georges, en me disant que c'était un parent.
C'était vrai?
Oh, probablement pas, mais je n'ai pas cherché à savoir, car ce parent, m'a-t-il semblé, était de toute évidence un pédéraste invétéré.
Et pouvez-vous le décrire?
Certainement, car il est venu plusieurs fois. Attendez, c'est un homme de taille plutôt avantageuse, cheveux châtains, visage assez rond, nez assez fort, la moustache en croc avec une barbe.
La dernière fois où je l'ai aperçu, il avait un costume prince de Galles, marron.
Quel âge?
Je lui donnerai environ 28 ans. Muni de ces renseignements précieux, les policiers parisiens se creusent les méninges, cherchent dans leurs souvenirs un barbu de grande taille, à la moustache en croc, pédéraste notoire et s'appelant Georges. On interroge les indicateurs, on effectue quelques rafles, tout cela sans succès. C'est alors que reparaît Alphonse Bertillon dans une scène qui devait rester à jamais mémorable dans toute l'histoire de la police criminelle. Je vous rappelle, chers amis, que bien qu'elle possède un signalement assez précis du meurtrier de Joseph, la police reste impuissante à le retrouver. Le crime a eu lieu le 16 octobre 1902, entre 6h et 8h du soir. C'est le 24 octobre, donc une semaine, jour pour jour, après la découverte du cadavre, qu'Alphonse Bertillon demande à être reçu par le juge d'instruction. Dès son entrée dans le bureau de ce dernier, Alphonse Bertillon, calme, silencieux et assez pâle, lui tend un rapport dactylographié. Ce rapport, en tête de la préfecture de police, Direction générale des recherches, service de l'identité judiciaire, vu et annexé par le commissaire de police du quartier, je l'ai sous les yeux. Je vais vous en lire quelques extraits, car c'est un document unique, à plusieurs titres. Je lis. Le 17 du courant, j'ai été chargé par M. Joliot, juge d'instruction, de photographier l'appartement situé au numéro 157 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, où un crime avait été commis sur la personne d'un sieur rebelle domestique au service de M. Allot, dentiste. Au cours de cette opération, j'ai été amené à reprendre des empreintes de doigts assez apparentes sur un carreau d'une vitrine du salon de M. Allot. Les empreintes dont il s'agit pouvaient avoir été laissées soit par l'assassin présumé, soit par sa victime, soit enfin par une personne quelconque ayant pénétré dans le salon de M. Allot. Dans l'impossibilité matérielle de vérifier la dernière hypothèse, je n'avais à m'occuper que des deux premières, ce qui me permit tout d'abord de constater que les empreintes inconnues n'avaient aucune analogie avec celle de la victime. Dès lors, les recherches se trouvaient limitées au répertoire anthropométrique. Effectuées avec le plus grand soin, elles ont fait découvrir une fiche concernant nommé Schaeffer Henri Léon, âgé de 24 ans, mesuré le 9 mars dernier, alors qu'il était inculpé de vol et abus de confiance, et dont les empreintes digitales concordent d'une manière frappante avec celles relevées sur le lieu du crime. Afin d'en faciliter la comparaison, j'ai fait agrandir ces documents à une échelle supérieure de 4 fois la grandeur naturelle, et le rapprochement des épreuves apparaît alors avec la plus grande netteté, si joint une reproduction des pièces mentionnées au présent rapport. Là, chers amis, je m'interromps quelques instants pour vous commenter les pièces en question. Il s'agit d'abord d'une fiche anthropométrique, où l'on voit en effet de profil et de face un homme barbu à la moustache en croc, le dénommé Henri Léon Schaeffer. La fiche comporte toutes sortes d'indications, la taille, l'envergure, la hauteur du buste, toutes les mensurations de la tête, la longueur des pieds, des doigts, des bras, la couleur de l'iris, la dimension et la forme des yeux, son âge, 25 ans, son âge apparent, 28 ans, la couleur des cheveux, la barbe, de l'implantation de celle-ci, etc., etc. Bref, ce que l'on appelle le bertillonnage. Et sous cette fiche ont été ajoutées l'empreinte du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire droit. Le dossier comporte en plus de la fiche des photos agrandies de ces mêmes empreintes comparées avec celles qu'Alphonse Bertillon a relevées sur la vitre de la vitrine du grand salon. Les points de similitude entre ces empreintes sont soigneusement signalés par un petit trait numéroté et relevés dans la marge. Il y en a plusieurs pages. Le rapport d'Alphonse Bertillon conclut: il appert que les empreintes digitales photographiées par nous sur la vitre brisée dans un des salons de M. Allot correspondent exactement
à celle que le pouce, l'index, le médius et l'annulaire de la main droite du nommé Schaeffer auraient pu occasionner. La position respective des traces de doigts imprimées sur les deux faces opposées de cette vitre, savoir celle du pouce sur la face extérieure et celle de l'index, du médius et de l'annulaire sur la face intérieure de la vitrine fracturée, démontre incontestablement que la position de ces empreintes a été faite après le bris de la susdite vitre. Signé, le chef du service de l'identité judiciaire, Alphonse Bertillon. Ainsi donc, pour la première fois dans l'histoire de la police du monde entier, un homme prétend avoir identifié formellement un criminel grâce à ses empreintes digitales. Si cet homme a raison, c'est la fin du système anthropométrique considéré jusqu'alors comme l'outil numéro un de la police. Et l'auteur de cette tentative n'est autre que l'inventeur de ce système anthropométrique, le Bertillonnage, Alphonse Bertillon lui-même. Vous conviendrez, chers amis, qu'il y a là une belle leçon d'honnêteté et de courage intellectuel. Et surtout si cette aventure réussit. Or, les photographies du dénommé Schaeffer sont reconnues par le mécanicien dentiste de M. Allot comme ressemblant fort au dénommé Georges, et par les inspecteurs des mœurs comme étant le portrait d'un pédéraste fort connu de leur service. Quelques jours plus tard, la saisie d'une lettre à la poste restante révèle la présence du dénommé Schaeffer à Marseille. Il est sur le point d'être arrêté dans cette ville lorsqu'à bout de ressources, il vient lui-même se constituer prisonnier et tout avouer. Inutile de vous dire, chers amis, que le retentissement de cette affaire fut très grand. À un journal humoristique de l'époque, l'Assiette au beurre, lui consacre sa couverture où l'on voit un Bertillon caricatural en redingote et chapeau haute forme, moustache, barbe et binocle, examinant à la loupe des empreintes de doigts sur un mur couvert de graffitis avec ce commentaire « Un assassin laisse toujours des traces quelque part ». Cette date du 14 octobre 1902 marque en effet l'abandon progressif du Bertillonnage et l'introduction des empreintes digitales comme preuve majeure dans l'instruction criminelle.
Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.